Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Monseigneur Ayé, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour cette émission retransmise sur nos deux radios chrétiennes, Radio La Pourdie, Ratia, et Radio Présence. Alexandre Aguerre, bonjour.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui avec vous, Monseigneur, nous allons aborder tout d'abord la vie de l'Église, puis les questions sociétales qui nous préoccupent aujourd'hui, et enfin on terminera avec les événements de la vie du diocèse. Alors l'actualité dans la vie de l'Église, c'est la préparation de ce synode sur la synodalité convoqué par le pape François. Il aura lieu en octobre 2023, mais on le prépare déjà, on l'a déjà préparé dans notre diocèse depuis plus d'un an, avec cette consultation du peuple de Dieu qui a eu lieu. Où est-ce qu'on en est? À quelle étape? Est-ce qu'on a encore des choses à faire, nous, au niveau local?
Je pense que c'est vrai que ce synode est d'abord le synode des évêques, comme on le sait, qui se réunira autour du pape en octobre 2023 à Rome. Et le pape a voulu précéder cette assemblée ordinaire du synode des évêques d'une consultation vaste du peuple de Dieu, d'abord dans une démarche diocésaine qui s'est achevée en juin-juillet dernier, et une démarche continentale maintenant qui suit son cours, même si on n'a pas beaucoup d'éléments encore là-dessus, on ne sait pas très bien en quoi elle consiste vraiment. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que, bien sûr, que ce sont aux évêques, autour du pape, à discerner ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Mais comme le thème précisément du synode sur la synodalité le dit, communion, participation et mission, on veut souligner par là que tous, en vertu du baptême, sont appelés à participer à la construction de l'Église, à la vie de l'Église, et en particulier à leur génération. Et non pas à partir des opinions du monde dont nous sommes parfois un peu trop imprégnés, non pas à partir de nos sensibilités, de nos préjugés parfois aussi, de nos opinions personnelles, mais à partir du sens de la foi, hein, parce que l'Église, qui est communion, est fondée sur cette communion, sur la foi de Pierre. Hein. Jésus a bâti son Église sur Pierre, c'est-à-dire sur sa profession de foi. Donc c'est évident qu'il faut que les fidèles soient adultes dans la foi, qu'ils approfondissent toujours plus ce sens surnaturel de la foi, dont le Concile Vatican II dit qu'il est éveillé et soutenu par l'Esprit Saint et qu'il est guidé par le magistère de l'Église. Et de cette manière-là, il est très important d'écouter le peuple de Dieu quand on est pasteur, même s'il reviendra au pasteur en effet, pape et évêque, en communion avec lui, de discerner ce qui vient de l'Esprit-Saint. Et j'ai trouvé d'ailleurs que le thème de notre pèlerinage à Lourdes, sur lequel nous reviendrons, qui est le thème de l'année, hein, à Lourdes, pour ces pèlerinages de l'année 2022, « Allez dire aux prêtres que l'on construise ici une chapelle et que l'on y vienne en procession », c'est le message de la Vierge Marie à Bernadette qui lui donne d'une certaine manière sa mission propre, qui est d'aller dire aux prêtres. Et donc il est très important que les fidèles disent aux prêtres ce que la foi leur inspire. Et Bernadette, elle l'a dit à partir de sa foi. Sans doute qu'elle était un peu analphabète, mais elle avait su le catéchisme, elle écoutait la parole de Dieu avec beaucoup d'attention telle qu'elle était proclamée dans la liturgie, elle récitait pieusement son chapelet, donc repassant les mystères du Christ et de l'Évangile avec les yeux et le cœur de Marie, et donc bien, elle était disposée à entendre le message du Seigneur, pour elle d'une manière un peu particulière, à travers un message direct de la Vierge Marie. Ceci dit, ce fut un peu long pour le curé, De croire cette petite, hein, quand, mais tu veux me faire croire ça à moi, lui dit-il, et elle répond, mais elle ne m'a pas demandé de vous le faire croire, elle m'a demandé de vous le dire, allez dire au prêtre. Et puis elle a laissé ça, et l'évêque, après une enquête minutieuse, bien, a discerné que c'était vraiment la volonté de Dieu, et ça a été déterminant pour l'Église de France qui était quasiment déclarée morte, sous les coups du laïcisme pur et dur et l'anticléricalisme, on tenait pas cher de l'Église à ce moment-là. Et pourtant, tout est reparti. Et Lourdes, depuis 164 ans, est un lieu où les chrétiens viennent se ressourcer du monde entier. Donc, vous voyez comment cette démarche synodale me semble très importante. Et pour nous, aujourd'hui, la continuité, Ben c'est qu'il faut continuer à soutenir le sens de la foi, à l'approfondir dans nos communautés, dans nos paroisses, par l'écoute de la parole de Dieu. Et il faut qu'il y ait un dialogue mutuel, une écoute mutuelle entre les prêtres et les pasteurs qui doit être renforcée. Ce sera le fruit pour nous déjà de cette première démarche synodale.
Alors les 14 et 15 juin, vous étiez à Lyon à l'Assemblée plénière extraordinaire des évêques et j'ai sous le nez un article du Figaro qui titre « Tempête dans l'Église de France ». Dans le cadre du synode sur la solidarité, les prélats ont envoyé des demandes de réformes révolutionnaires à Rome. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui s'est passé à Lyon les 14 et 15 juin?
Alors je crois que l'auteur de cet article du Figaro n'avait pas très très bien saisi ce
c'est Jean-Marie
Guénois. Oui, tout à fait. Il a fait un article suivant pour pouvoir modérer un petit peu son premier coup de gueule. En fait, il y a une collecte des synthèses nationales qui a été produite sur laquelle nous avons exercé un premier discernement au cours de cette assemblée. Nous n'avons pas adopté cette collecte, nous l'avons reçue telle quelle, et nous avons accompagné l'envoi de cette collecte au secrétariat du synode à Rome d'une lettre qui indiquait la manière dont nous la considérions et comment nous l'envoyons au siège de Pierre. En gros, on a voulu dire que cette collecte n'était pas représentative de l'ensemble du peuple de Dieu, que beaucoup de catégories de fidèles, en particulier des jeunes familles aussi, et puis peut-être des chrétiens de sensibilité un peu plus classique ou conservatrice, si je puis dire, comme on dit aujourd'hui, n'ont pas trop participé à ce synode. Et donc on a voulu dire aussi les manques, les choses bonnes qu'on en avait reçues, aussi les manques et celles qui étaient peut-être en contradiction avec précisément le sens de la foi. Donc je pense qu'il a cru que cette collecte était l'objet d'une approbation des évêques qu'elle avait envoyée telle quelle, où de fait on retrouve, pas des grandes révolutions, parce que ce sont des choses que l'on entend depuis 50 ans, l'ordination des femmes, le fait que les laïcs puissent se diriger une paroisse, etc., etc., ou faire le mélie, tout ça ce sont des vieilles lunes, mais il n'a jamais été question dans cette assemblée des 14 et 15 jours, d'ailleurs il n'y avait pas seulement les évêques, puisque nous avions aussi des représentants de chacun de nos diocèses qui avaient participé à la démarche synodale dans leur diocèse respectif et qui ont tout à fait posé ce
alors pour notre diocèse justement, qui étaient vos invités?
Eh bien, mon invité, c'était le secrétaire spécial, c'était le père Philippe Beitia. Hein, donc, il y avait des prêtres, il y avait des consacrés, il y avait des laïcs. Et je trouve qu'il y a eu une belle unanimité. On a travaillé entre évêques, puis dans des groupes brassés, etc. Et on a travaillé même tard le soir pour donner un document qui soit le plus représentatif, à la fois recevant positivement beaucoup de choses qui ont été dites au cours de ces démarches synodales diocésaines, et puis en corrigeant peut-être les choses qui nous paraissaient pas tout à fait conformes à la foi de l'Église.
Parlons un peu de la liturgie, puisqu'il y a eu récemment à Rome le pèlerinage national des servants d'autel. Il y avait une délégation de notre diocèse avec une quarantaine de garçons et de filles qui sont au service de l'autel dans nos paroisses.
Oui.
Le pape a publié le 29 juin, donc presque un an après Traditionis Custodes, une lettre apostolique sur la liturgie. J'ai désiré d'un grand désir. Je pense que vous l'avez lu avec attention.
Bien sûr.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment vous recevez ce texte du pape?
C'est une lettre qui est destinée à promouvoir un peu plus dans l'Église la formation liturgique du peuple de Dieu, pasteur et fidèle d'ailleurs. Quand je lis cette lettre, je vois comment le pape revient sur les grands principes qui guident la liturgie et qui sont inscrits dans la grande constitution Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II. Alors sans doute, il rappelle l'importance du motu proprio, en particulier par rapport à la forme extraordinaire, comme on disait, du temps de Benoît XVI, du rite romain, mais il insiste beaucoup sur les principes qui doivent guider la célébration liturgique. Et il insiste au fond d'une certaine manière sur l'ars celebrandi, l'art de célébrer, qui permet de faire valoir dans la vie du peuple de Dieu ces grands principes de la liturgie qui est la célébration du mystère pascal du Christ, qui doit être célébrée de manière digne, qui doit éviter toutes les fantaisies, à la limite du supportable, comme disait Benoît XVI, mais qu'a repris d'ailleurs le pape François dans sa lettre accompagnant le motu proprio Tradis Custodes. Et je me suis dit qu'au fond, c'est une manière de dire à la fois, ben, les tradis, on va voir comment vous allez pouvoir continuer à célébrer la messe en forme extraordinaire, puisque aujourd'hui, ben, il faudrait une plus grande unité, comme il le dit, mais sans donner de d'échéance ni de d'oucase, hein, en même temps. Et puis, appelant au discernement, comme je l'ai entendu, de ceux qui ont pu contacter le pape directement après la publication du motu proprio. Et par exemple, pour la frère de Saint-Pierre, il a émis un décret qui, d'une certaine manière, infirme pour eux le motu proprio qu'il avait promulgué quelque temps avant. Donc c'est là où on voit bien le jésuite qui appelle toujours un peu au discernement dans les situations concrètes des communautés. Mais il insiste aussi pour dire bah, peut-être que la manière dont on célèbre la messe de Paul VI ou qu'on a célébré ou qu'on célèbre aujourd'hui n'est pas toujours conforme aux principes, aux grands principes théologiques qui guident la liturgie de l'Église.
On a vu cet été une vidéo où un prêtre italien célèbre la messe sur un canot pneumatique dans la mer. Il est plongé dans la mer, il se baigne en fait en célébrant l'Eucharistie. Vous l'avez vu cette vidéo ?
Oui, je l'ai vu. Et pour moi, c'est une fantaisie qu'il faut évidemment éviter. Je ne pense pas qu'il l'ait fait d'ailleurs avec mauvaise intention, parce que je crois qu'il a la foi et ils sont excusés. Mais à mon avis, il faut éviter ce genre de choses qui peuvent friser à infirmer le sacré et le trésor que représente la liturgie, qui est quand même le sommet et la source de la vie de la mission de l'Église, selon les paroles du Concile Vatican II.
Nous marquons une pause et nous vous retrouvons, Mgr Ayé. Nous allons parler des questions sociétales dans un instant.
Radio Lapordi.
Mgr Ayé, nous continuons avec vous cette émission avec les questions sociétales qui nous préoccupent, notamment le retour de la question de la fin de vie, la légalisation de l'euthanasie qu'on voit arriver à grands pas. Le Comité consultatif national d'éthique, donc le CCNE, a donné son avis récemment. Qu'en pensez-vous ?
Cet avis est assez surprenant, car en même temps il dit qu'il n'y a pas forcément d'urgence à faire une loi, et ça ne semble pas pertinent de faire une loi sur la fin de vie. En précisant d'ailleurs que ça risque de renvoyer aux personnes en fin de vie justement un message très mauvais, puisque c'est une manière de dire finalement votre vie n'a pas de valeur. Et puis bon, on voit bien que le comité consultatif national d'éthique est très réservé par rapport à cette loi de fin de vie. Et en même temps, il semble montrer qu'on pourrait très bien aller vers une loi qui légalise le suicide assisté. Donc c'est un peu incompréhensible, c'est un peu contradictoire, et à mon avis, c'est un langage qui est très confus. L'est-il simplement parce qu'ils sont un peu embarrassés, ou l'est-il un peu intentionnellement, parce que ça fait partie quelquefois d'une stratégie de communication ? Je ne saurais le dire. Mais en tout cas, l'effet est quand même un peu désastreux, et il semble très important que l'Église puisse apporter un regard clair sur cette question de la fin de vie. Ne serait-ce que d'un point de vue sociétal, nous avons des lois, Claes Leonetti, qui veulent faire la promotion des soins palliatifs. Il y a tout un programme de soins palliatifs qui n'a jamais été mis en œuvre.
Pour vous, cette loi est bonne, la loi Leonetti ?
Elle n'est pas forcément bonne complètement, parce que cette sédation
profonde
et continue ressemble quand même un peu à une sorte d'euthanasie. C'est évident. Mais cependant, l'essentiel de la loi Leonetti sur la fin de vie, c'est de promouvoir les soins palliatifs.
Et ça, tout le monde a l'air d'accord sur ce sujet.
Oui, mais il y a toujours des départements où il n'y a pas de centre.
Voilà, parce que ça n'a pas été mis en œuvre. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense. D'abord, la première chose qui est claire, c'est qu'on avalise l'idée à travers la campagne médiatique qui entoure ce projet de loi de fin de vie qui traîne depuis des années. On a l'impression qu'il n'y a pas d'autre alternative entre l'euthanasie, qui reste un acte qui, dans l'intention et les moyens, provoque la mort, et donc ça, c'est quelque chose qui s'appelle un meurtre, comme disait Saint Jean-Paul II dans son encyclique L'Évangile de la vie en 1995, et l'acharnement thérapeutique. Il est bien évident que l'Église n'a jamais été pour l'acharnement thérapeutique. C'est pas ou l'un ou l'autre, vous voyez. La première voix qui s'est levée contre l'acharnement thérapeutique dans le monde et dans la société, c'est la voix de l'Église. Par le pape Pie XII en 1957, en disant il faut soulager la souffrance. Tout le monde n'est pas appelé par devoir au martyr. C'est magnifique si des âmes chrétiennes veulent éviter les analgésiques pour pouvoir offrir leur souffrance jusqu'au bout, mais c'est un héroïsme qui n'est pas à la portée de tous et qu'on ne saurait leur demander. Donc il est évident que l'Église a toujours milité pour les soins palliatifs. Deuxième chose que je dirais, c'est que lorsque les médecins qui sont dévoués aux soins palliatifs et qui est une vraie science médicale, on a maintenant des moyens de soulager la souffrance physique quasiment à 99%. Et ensuite, on apporte aussi un soulagement d'ordre moral avec la proximité de la famille et aussi de tous ceux qui accompagnent. Moi, j'ai une tante qui vient de mourir en 3 mois d'un cancer du pancréas. Bon, ben, elle a refusé d'un acharnement thérapeutique en disant ben non, arrêtez les traitements, parce que ça ne sert à rien, c'est tellement disproportionné par rapport au peu de vie qui me restera, et ça fera en plus un désagrément terrible. Donc elle a été transférée à l'Institut Jeanne Garnier, qui est une maison exemplaire en soins palliatifs, qui a été créée d'ailleurs par des sœurs, des religieuses, et où il y a un personnel d'une attention, d'un dévouement et d'une compétence extraordinaire. Elle est morte là, paisiblement. Elle était entourée tout le temps. C'est toutes les demi-heures que quelqu'un du personnel venait la voir. J'ai pu lui donner le dernier sacrement, et elle est morte tout à fait paisiblement, et elle a été accompagnée par sa famille jusqu'au bout. Vous voyez, donc ça, c'est très important. On n'a pas rompu la solidarité et la fraternité, comme dit Monsieur Dornelas, dans son avis aussi sur l'avis du CCNE. Et en plus, on a permis à cette personne eh bien, de vivre jusqu'au bout une vie qui est toujours de la valeur, voyez. Les médecins en soins palliatifs disent que dans leur service, personne ne demande la mort. Quand on demande l'euthanasie, c'est parce qu'on n'en peut plus et qu'on souffre tellement et qu'on a l'impression que sa vie n'a plus de valeur. Et si vous dites « donnez-moi l'euthanasie », oh, mais bon, on va faire tout ce notre possible pour... Ça veut dire « ben oui, il a raison, lui-même me le dit, ma vie n'a pas de valeur ».
Alors pourquoi cette solution des soins palliatifs ne suffisent pas aux défenseurs du droit à mourir ?
Voilà, c'est ce que je voulais dire pour terminer. C'est qu'on est dans une logique mercantile. N'oublions pas que l'hôpital a été régulé depuis des décennies, depuis des années en tout cas, par l'intermédiaire de personnes qui ont été haut placées récemment dans le gouvernement de M. Macron, qui avait pour but de rentabiliser l'hôpital. Dans la mesure où la logique n'est plus la logique de la dignité de la personne humaine, le soin apporté à la personne humaine, mais une logique financière, eh bien on supprime des lits et on finit par dire « le seul moyen de sauver l'hôpital, c'est de ne pas être malade ». Vous voyez, ça a été dit par M. Castex, ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le seul moyen de sauver l'hôpital, c'est de ne pas être malade. Donc confinez-vous, ne soyez pas malade. Pourquoi ? Parce qu'il y a une logique financière. Et c'est vrai que ça coûte cher d'accompagner nos personnes âgées, nos malades incurables. Ça coûte très cher de les accompagner jusqu'au bout. Alors résultat, eh bien, c'est une logique mercantile qu'on fait passer pour un sentiment de piété. De pathos, on est dans le pathos, mais comme disait Jean-Paul II, finalement c'est une piété fallacieuse, parce qu'on se débarrasse des gens en prétendant soulager leurs souffrances.
Signalons à ceux qui nous écoutent que les évêques de France ont publié une tribune dans Le Monde sur cette question où ils plaident pour une aide active à vivre. Et puis il y a aussi cette réaction du grand rabbin de France qui, lui, s'alarme d'une rupture anthropologique tragique. Finalement, les représentants des grandes religions sont vent debout.
Tout à fait. Et il y a une belle tribune aussi qui est parue dans le Figaro, qui est co-signée par un rabbin de Paris, qui lui-même est un ancien membre du CCNE, et Mgr Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, et qui insiste aussi sur ce... Alors, qui disent le positif quand même de la vie, qui n'est pas si tranché que cela, mais qui évidemment plaide pour le droit à la vie jusqu'au bout.
Nous changeons de sujet, bien que tout soit lié, la dignité de la vie humaine. Parlons des migrants, ce qui s'est passé à l'église du Rugne le 26 août dernier. La presse locale et nationale s'en est fait l'écho. Des policiers sont rentrés dans l'église du Rhône pour demander à des migrants de sortir afin de pouvoir les interpeller. Donc ça prouve bien quand même qu'ils avaient conscience que dans une église, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc vous, comment vous avez été mis au courant de cette histoire ?
Alors moi, j'ai été mis au courant après coup, par le prêtre coopérateur qui réside désormais à Urugne, le père Sabaletta, qui lui-même a été mis au courant après, hein, qui a su après, évidemment, que la police était venue interpeller une dizaine de migrants qui étaient entrés dans l'église, sans doute pour se réfugier, évidemment, l'église d'Urugne. Donc, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, bah, c'est quand même... Alors, lui, en plus, il pensait qu'ils les avaient interpellés carrément à l'intérieur de l'église, c'est-à-dire vérifier leurs papiers et les faire sortir par la force. Et donc, j'ai appelé immédiatement le préfet. Donc, le préfet, je lui ai dit, monsieur le préfet, si la police est entrée dans l'église pour interpeller ces migrants, vous savez que c'est une infraction à la loi. D'abord, il n'y a que l'affectataire qui peut demander à la police d'entrer s'il le faut, mais on ne l'a pas fait, évidemment. En plus, on a été prévenu après. Et puis, l'église a toujours été un lieu d'asile, hein, pour toute personne qui est en situation de grand risque pour sa vie. Bon. Ce qui n'était pas forcément le cas. Je ne peux pas discerner d'une situation concrète dont on ne connaît jamais tout à fait les tenants et les aboutissants. Et il m'a dit tout de suite, non, ils n'ont pas vérifié l'identité à l'intérieur, ils sont de fait rentrés dans l'église en leur demandant de bien vouloir sortir, et ça a été fait. Ils sont sortis de manière tout à fait volontaire et sans avoir été molestés. Mais j'ai dit au directeur de la police, m'a dit le préfet lui-même, que ce genre de choses ne doit plus se reproduire. Bon. Voilà.
Est-ce que c'est pas un peu quand même jouer sur les mots, ils sont rentrés pour leur dire
pas
de sortir ?
Pas tout à fait, pas tout à fait. Non, parce que entrer dans une... Alors, de fait, je répète qu'ils n'avaient pas entré à l'église sans avoir été invités à le faire par les affectataires. Et en tout cas, c'est une chose qui peut jamais se faire de manière sans autorisation. Voilà.
Vous n'avez pas fait de communiqué à ce sujet
Mais on a fait un communiqué par l'intermédiaire du père Sabaletta, qui a participé sans intervenir à la manifestation qui a eu lieu avant la messe du samedi soir. Donc le lendemain.
Avec 300 personnes.
Ça, je ne sais pas très bien.
C'est ce que dit la presse, en tout cas.
Voilà, bon. Et ensuite, à la fin des messes, il a fait un communiqué sur lequel on s'était bien entendu. Mais moi, j'ai répondu à la presse, j'ai répondu à La Croix, et j'ai répondu à Sud-Ouest, qui a rendu compte, pas de manière exhaustive de ce que j'ai dit, mais tout en disant qu'il y a un droit d'asile dans l'Église qui doit toujours être respecté, surtout pour les cas graves. En l'occurrence, là, j'ai pas les éléments pour dire si ces migrants étaient vraiment en détresse. Il faut toujours faire attention que dans une affaire comme ça...
Il y a quand même eu 9 migrants qui sont morts dans la Bidassois.
Mais pas ceux-là.
Pas ceux-là, mais il y en a quand même eu 9 qui sont décédés en traversant la Bidassois. Donc ça pose question quand même.
Mais vous savez bien que la question que ça pose, c'est qu'ils sont aussi des passeurs. N'oubliez pas que ce n'est pas seulement l'interdiction d'entrer sur notre sol, et ça, tout pays a forcément des règles d'entrée à la frontière, mais n'oubliez pas que le grand drame dans l'histoire des migrants qui meurent en Méditerranée, qui ont fait un cimetière, comme dit souvent le pape François, et là, en l'occurrence, dans la Bidassois, c'est le drame des passeurs qui exploitent les migrants et avec beaucoup d'argent. D'ailleurs, ce qui veut dire aussi que ces migrants-là peuvent aussi payer, hélas, des passeurs pour pouvoir entrer clandestinement. Donc vous voyez, c'est une affaire très, très, très compliquée. Et moi, je ne veux pas entrer non plus dans une instrumentalisation. Il faut faire très attention qu'il ne faudrait pas que l'Église, en l'occurrence, je répète que nous n'avons été mis au courant qu'après les événements, que la police, semble-t-il, a été prévenue par un coup de fil anonyme, on ne sait pas d'où il vient, quelle était l'intention qu'il y avait derrière, personne n'en sait rien. Et en faire tout de suite ensuite une affaire d'État, ça veut dire aussi qu'on a peut-être d'autres causes à défendre, et de fait, la manifestation qui s'est présentée devant l'Église, ce qu'on a tout à fait toléré, évidemment, il n'a jamais été question dans les discours du fait que les policiers étaient entrés par infraction dans l'Église.
Quoi qu'il en soit, l'Église catholique célèbre le dimanche 25 septembre la journée mondiale du migrant et du réfugié.
Absolument. Et ça, il faudra qu'on le souligne de toute façon,
liturgiquement. Nous vous retrouvons, Mgr Hayet, dans quelques instants pour parler de la vie diocésaine.
Radio La Pour Dire à TIA, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Nous retrouvons notre évêque, Mgr Marc Caillet. Nous allons parler des événements de la vie diocésaine. Nous commençons tout de suite par le pèlerinage diocésain à Lourdes avec l'hospitalité basco-béarnaise. C'est toujours un beau moment pour commencer l'année pastorale.
Oui, un grand et beau moment, surtout après des années un peu de restrictions. L'an dernier, je vous rappelle qu'on avait quand même pu emmener 130 malades et un centre d'hospitalier, mais qu'aujourd'hui, on commence à parvenir à notre rythme de croisière, qu'on atteindra, j'espère, l'année prochaine. Mais cette année, il y avait quand même à peu près 300 malades, 800 hospitaliers, 130 lycéens de nos établissements d'enseignement catholique, le pèlerinage Sourire avec une dizaine d'enfants, l'école du service avec une dizaine d'adolescents. Donc tout ça est un grand moment ecclésial, rejoint évidemment par des centaines de fidèles le dimanche 18.
Il y avait combien de personnes selon vous à la messe?
Alors, à peu près 4000, je pense. Parce
le dimanche matin.
Parce que l'église contient 5000 personnes. Donc je pense qu'on était à peu près 4000, parce qu'il y avait évidemment des... Donc c'est quand même très beau, hein. Il y a cette communion quand même des fidèles, des bien portants, des malades, des hospitaliers, des fidèles qui viennent de tous les horizons du diocèse, des prêtres. Moins peuvent se libérer évidemment le dimanche parce qu'on est moins le matin parce qu'on est moins nombreux, mais l'après-midi il y a quand même un petit groupe de prêtres qui viennent aussi pour ce moment important de la vie du diocèse. Et moi je tiens particulièrement à féliciter la présidente de l'HBB, hein, Maëlys Bideguin, parce que c'est une organisation colossale et on est un des diocèses qui amenons le plus de malades quand même. Donc c'est quand même, on a une hospitalité qui est quand même très performante. Et puis aussi l'abbé Philippe Aristoy, qui est l'aumônier de l'HBB et qui aussi organise toutes les choses de telle sorte que tout se passe admirablement. Et je pense que c'est un temps spirituel très fort, un temps fraternel très fort, intergénérationnel. Et puis c'est pour moi, je considère toujours que c'est un petit peu le lancement de notre année pastorale. On se situe au mois de septembre et c'est l'occasion de se disposer à commencer une nouvelle année.
Si vous me permettez l'expression, il y avait des invités surprises aussi à ce pèlerinage diocésain. Je veux parler des Ukrainiens.
Ah oui, c'est vrai. Oui. On a eu. Il m'a été demandé donc il y a une semaine par le père Georges Ashkov, qui est donc le prêtre orthodoxe qui est responsable de la paroisse orthodoxe de Biarritz, mais aussi de Lourdes, et qui, en lien avec l'Ordre de Malte, qui s'occupe beaucoup de ces réfugiés ukrainiens, qui en l'occurrence là sont de confession orthodoxe, m'avait demandé s'il pouvait être accueilli à Lourdes au cours de la messe diocésaine, qu'il y ait l'évangile qui soit dit en ukrainien, justement pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passait, et puis une prière pour la paix prononcée par le père Georges Ashkov. Donc il est évident que j'ai accepté très volontiers et c'était très important qu'il puisse se sentir bien au milieu de nous.
C'était donc la rentrée, c'est la rentrée et c'était la rentrée du séminaire il y a quelques jours. Nous avons deux diacres qui vont bientôt être ordonnés. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles du séminaire de cette rentrée?
Voilà, donc le séminaire, c'est-à-dire deux séminaires, hein, toujours le séminaire des 5 heures de Jésus et de Marie, le séminaire Redemptoris Mater, qui sont tous les deux diocésains et qui forment des prêtres qui sont incardinés évidemment dans le diocèse et actifs dans le diocèse. Donc nous avons le 1er octobre l'ordination de deux diacres du séminaire Redemptoris Mater, Fadi Mata et José Celestino.
Donc Redemptoris Mater, on le rappelle, c'est le chemin néocatéchuménal.
Donc ce sont des séminaristes qui sont issus du chemin néocatéchuménal, qui sont formés pour une part avec une pédagogie propre, qui est liée au chemin d'initiation chrétienne, qui est le chemin néocatéchuménal, et pour une grande part, avec les autres séminaristes, pour les études, pour les exercices spirituels, pour le sport, pour certains moments importants de leur formation.
Et ces deux diacres, quand ils seront prêtres, resteront dans notre diocèse?
Bien sûr, hein, comme les deux premiers que j'ai déjà ordonnés. Hein. Il est possible qu'ils soient appelés à partir en mission, comme un prêtre diocésain qui peut être fidèle de nous, si vous voulez. Hein, mais pour l'instant, ils sont évidemment, en tout cas pour les premières années, ils seront tout à fait attachés au diocèse. Et toujours incardinés, de toute façon, au diocèse, même s'ils doivent partir dans un autre diocèse après, si on a besoin d'eux ailleurs, en mission. Pour le séminaire La Rentrée, du côté du séminaire Rédemptoris Mater, il y a 3 jeunes propédeutes. Et du côté du séminaire des 5 heures de Jésus et de Marie, il y a 2 propédeutes, voilà, qui viennent d'entrer. Donc, c'est pas énorme.
Première année.
Première année, ils sont 4 à entrer en première année. Ensuite, on a des années un peu creuses. Il y en a un qui est parti en stage intercycle. Il est parti au Chili, à Santiago du Chili, avec une association qui s'appelle Misericordia et qui prend en charge les enfants et les pauvres de ces banlieues de grandes villes latino-américaines.
Donc on n'aura pas forcément d'ordination sacerdotale cette année ?
Ben, on aura peut-être quand même les 2 diacres, mais on n'en sait rien. S'il faut un temps de discernement.
À la grâce de Dieu.
À la grâce de Dieu, voilà.
Monseigneur Rayet, catéchèse en fait, la journée de rentrée des catéchites, c'est le 11 octobre. Vous y serez à Salis-de-Berne.
Bien sûr.
C'est important d'accompagner les catéchistes.
Oui, je pense que c'est une journée importante qui permet de rassembler le plus possible les catéchistes disponibles. C'est-à-dire, je crois finalement, ceux qui ne travaillent pas ou qui n'ont pas pu poser un jour pour y participer. Dans une plus grande communion diocésaine, il s'agit de rassembler, d'envoyer en mission de manière plus officielle chaque année par l'évêque, au nom de l'Église, tous ceux qui sont appelés généreusement, avec les prêtres de leur paroisse, à transmettre la foi aux enfants qui nous sont encore confiés. Nous sommes encore un diocèse où les enfants s'inscrivent au catéchisme, en tout cas les parents inscrivent leurs enfants au catéchisme, ou les enfants par osmose et par entraînement viennent au catéchisme parce qu'il y a un copain qui y est, même si vous savez bien qu'il y a une grande baisse, et je voyais hier un évêque à Paris, puisque au moment où nous faisons cette émission, je rentre de Paris, et il me disait que dans son diocèse, la catéchèse n'existe pratiquement plus. Un petit diocèse rural où il n'y a même plus de service diocésain de la catéchèse. Vous voyez, donc on est encore bien lotis avec un service que je salue aussi, qui fait beaucoup, qui accompagne, qui propose des accompagnements en tout cas sur le terrain, en ayant visité les catéchistes et les prêtres sur le terrain, quand les doyennés les invitent et les accueillent, qui propose des formations, qui accompagne les différents documents catéchétiques qui sont utilisés dans le diocèse, et qui porte vraiment le souci de cette formation des catéchistes, car je pense que c'est très important que, comme je le rappelle sans cesse, la foi se transmet à partir de la foi. Et c'est dans la mesure où les catéchistes sont vraiment des aînés dans la foi, qu'ils sont des adultes dans la foi, qui ont vraiment une vie de foi, mais qu'ils peuvent de manière crédible et, j'allais dire, féconde, transmettre la foi aux enfants.
C'est le temps des grands chantiers diocésains, Monseigneur. Nouvelle maison diocésaine à Pau et peut-être bientôt une nouvelle maison diocésaine à Bayonne. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, j'en dis déjà un petit mot, mais on va évidemment communiquer de manière beaucoup plus vaste et précise et publique dans les semaines, les jours et les semaines qui viennent. Déjà à l'Assemblée générale de l'Association diocésaine qui a lieu le 5 octobre prochain, pour qu'il y ait une communication officielle qui soit faite, et puis avec des supports évidemment écrits et informatiques, de manière à bien avancer. Pour ce qui est de la maison diocésaine de Bayonne, comme vous le savez, la maison diocésaine actuelle est obsolète au sens où il faudrait faire de très gros travaux et trouver des fonds pour le faire. Donc l'option que nous avons retenue, pour l'instant, avec un comité de pilotage qui s'est mis en place, qui comprend à la fois des techniciens, on va dire, l'économat et l'immobilier, mais aussi des prêtres et des laïcs qui sont engagés dans les services, où je pense à l'abbé Philippe Aristoy, l'abbé José Bourreau, au nom des mouvements et associations de fidèles. Nous avons pour l'instant arrêté comme projet de construire une nouvelle maison diocésaine avec le prix de la vente de l'actuelle parcelle sur laquelle se trouve la maison diocésaine de Bayonne, sur le parc Saint-Léon, pas sur le parc, mais à Marac, voilà, c'est ça, où se trouve l'église paroissiale Saint-Léon, et où, pour mutualiser les services, pour rationaliser notre immobilier, et donc pour le fonctionnement, avoir un moindre coût, bien on y transférera aussi l'évêché, donc l'évêque et la curie, et même l'enseignement catholique qui viendrait aussi nous rejoindre. Donc on devrait pouvoir ainsi assurer une plus grande communion avec toutes les réalités pastorales et administratives du diocèse de Bayonne, avec sans doute moins d'hébergements, mais des hébergements pour les prêtres âgés, parce que je rappelle que ça a été la première réflexion pour la restauration ou la reconstruction d'une maison diocésaine. Et puis, quelques chambres évidemment d'accueil, mais on n'a pas besoin d'un hébergement aussi important que celui qu'il y avait ou qu'il y a actuellement dans la maison diocésaine.
Que va devenir l'évêché alors ?
Alors l'évêché demeure patrimoine diocésain, bien entendu, il n'est pas question de s'en défaire. Je pense que le projet, c'est que le rectorat vienne habiter au premier étage de l'évêché, là où se trouve l'évêque actuellement.
C'est-à-dire le presbytère de la cathédrale ?
Serait loué, hein, et donc un certain nombre de bâtiments que nous allons ainsi libérer, comme celui de la communication aussi, seront loués, ainsi que des parties de l'évêché pourront être louées en bureau, même peut-être en commerce, au rez-de-chaussée, et qui permettra non seulement d'entretenir notre immobilier, notre patrimoine immobilier au centre-ville, mais en même temps d'assurer un budget de fonctionnement pour la maison diocésaine, qui sera évidemment beaucoup plus rationnel, y compris sur le plan des coûts.
Et à Pau ?
Alors à Pau, nous sommes toujours dans ce projet de la maison Saint-François-Xavier, hein, qui sera une maison diocésaine. Pour l'instant, les travaux prennent un peu de retard parce qu'il a fallu changer un peu le programme du fait que pour loger le plus vite possible les prêtres âgés, on a décidé d'aménager le grand presbytère de la paroisse Saint-Joseph, enfin, qui n'est plus une paroisse, mais à côté de l'église Saint-Joseph, pour pouvoir faire des appartements pour les prêtres âgés. Donc les travaux ont commencé incessamment sous peu, dès que le permis de construire sera
délivré,
voilà. Et là aussi, dans le bâtiment attenant de ce presbytère Saint-Joseph, ce qu'on appelle le petit presbytère, et une salle du rez-de-chaussée du presbytère Saint-Joseph, eh bien, on a placé le CDB de manière temporaire.
Hein, le centre diocésain du Béarn.
Le centre diocésain du Béarn, voilà, qui a été vendu avec la maison François-Henri, qui est vide de ses habitants, de manière à pouvoir supporter le coût de la maison Saint-François-Xavier. Voilà. Donc là, on en est à la préparation du permis de construire sur la maison Saint-François-Xavier.
Donc on le voit, beaucoup de projets, beaucoup de chantiers. Merci beaucoup, Monseigneur Hayet. Un dernier mot peut-être sur le thème de l'année. Vous l'avez déjà évoqué dans votre homélie à Lourdes récemment. Est-ce qu'il y a un thème pour lancer cette année pastorale ?
Alors, moi, je pense que l'année pastorale, elle va être un petit peu comme ce que je disais dans la précédente ou l'émission. Je pense qu'elle est inspirée quand même du thème de Lourdes, hein, « Aller dire aux prêtres qu'on y construit une chapelle et qu'on y vienne en possession ». Et je pense aussi que ce que j'aimerais, c'est que dans la ligne du synode, on trouve dans les paroisses, dans les communautés, des lieux d'écoute de la parole entre prêtres et fidèles, et des lieux aussi pour engager une vraie transformation pastorale, dans laquelle le pape François nous a engagé depuis son exhortation apostolique, la joie de l'évangile, donc une manière de comprendre la mission de l'Église de manière plus proactive en direction des périphéries, que l'Église soit davantage une Église en sortie, et que ça puisse aussi forcément modifier, transformer le ministère des prêtres dans une visée encore plus missionnaire.
Merci beaucoup, Mgr Marc Hayet. Merci à tous les auditeurs de Radio Présence et de Radio La Pourdie. Merci à Violaine Ricourt-Dumas et à très bientôt.